Pit Stop avec Denis Gravel, présenté par Identité Québec. Faites votre demande de pardon et soyez financé sans intérêt en une seule étape. Identité Québec, à un clic de votre liberté. Le Pit Stop avec Denis Gravel, présenté par Identité Québec. Faites votre demande de pardon et soyez financé sans intérêt en une seule étape. Identité Québec, à un clic de votre liberté.
Boulevard, le Pit Stop.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Yannick Marceau, on refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau. Ah.
7h46 minutes, il arbore son plus beau chandail, les Bruins de Boston. Denis Gravel qui est en studio avec sa tuque. C'est-tu les Sons of Anarchy, ça?
C'est un ancien lutteur de la WWE, ah, voilà. Dean Ambrose. Mais ça ressemble à Sons of Anarchy.
Ça y ressemble un peu.
D'ailleurs, j'ai commencé la série que tu m'as parlé hier. Oui. Il est méconnaissable.
Oui!
C'est l'enfer.
Jax! Qui joue Ed Gein, le tueur en série.
Hey, c'est toute une performance. Ça donne froid dans le dos, il est épeurant. Puis si tu me l'avais pas dit avant, je l'aurais jamais reconnu.
Ben écoute, moi, je te l'ai dit, j'ai écouté ça parce que je voulais pas aller sur Wikipédia pour en savoir un peu plus sur Ed Gein. Je n'avais entendu parler. Fait que j'ai pas regardé sur Google qui était l'acteur et tout ça. J'ai parti ça, puis je regardais l'acteur. Je me disais, ça, il me fait penser à quelqu'un. Jusqu'à temps que je me rende compte que c'était Jax dans Sons of Anarchy, puis qui était comme reconnu comme étant une icône de la beauté sur Terre.
Ben oui.
Puis là, dans Ed Gein, là, c'est...
Il y a une face bizarre.
Oui, il y a une face bizarre.
Puis il y a une petite voix qui inspire pas confiance.
Tu l'écoutes ça en anglais ou en français?
Je l'écoute en anglais.
En anglais, ouais, c'est ouais. Ça. Puis il a travaillé longtemps sur cette voix-là.
Très impressionnant.
De ce que j'ai compris. Fait que, ben, tu t'apprécies. Est-ce que tu apprécies jusqu'à maintenant?
Beaucoup.
Ouais.
Beaucoup, puis on est dans le temps de l'année où j'aime les histoires d'horreur, de tueurs en série. Tu sais, c'est l'Halloween, puis ouais. Netflix avait tout le temps une série d'horreur d'habitude qui était vraiment bonne, là, The Fall of House of Usher, t'avais eu les Haunting on Hill House, puis ces affaires-là. Puis on dirait que cette année, on n'en a pas. Il y a une affaire de documentaire de maison hantée, moi ça m'intéresse moins, là, mais cette série-là vient combler mon vide, puis en même temps, ben, c'est un mythe et une histoire qui a inspiré quasiment tout le corpus des films d'horreur originaux. C'est fascinant de voir. Puis je suis un peu comme toi. Moi, les faits, je vais les vérifier après une série, ouais. Pas avant. Mais à date, oui, je suis accroché par le coup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la série.
Ouais, c'est le fun parce qu'il y a des auditeurs qui m'ont réécrit hier pour dire hey, « moi aussi, je l'ai commencé ». Sérieusement, j'aime ça quand vous revenez avec vos commentaires. Moi, je suis rendu à l'épisode 5. Puis c'est de plus en plus weird. Là, t'as-tu vu Alfred Hitchcock arriver?
Pas encore, non. J'ai un épisode d'écouté, puis c'est la série la plus écoutée sur Netflix présentement.
Actuellement,
ouais, ouais,
c'est
ouais,
ça. Puis je ne sais pas si Alfred Hitchcock... Oui, il devait être weird là, pour penser à toutes ces affaires-là, là. Mais je ne sais pas s'il est vraiment dépeint comme il faut dans la série. Parce que tu regardes ça, puis tu dis, le gars, il avait une perversité qui était hallucinante.
Oui. Beaucoup de gens malades. C'est pas nouveau, là. C'est...
Mais c'est Alfred Hitchcock.
Eh oui.
Il a le droit d'être malade.
Jusqu'à un certain point.
Il nous a amené du bon cinéma.
Oh, oui.
Sondage léger, on apprend que Bruno Marchand, qui est en progression constante dans sa course à la mairie de Québec, c'est le maire sortant. J'ai obtenu les chiffres qui datent de mai 2025. Comparativement aux chiffres d'octobre, ceux qui sont sortis là dans le Journal de Québec. Mai 2025, Marchand commençait à 23 % sa campagne. Octobre, en date d'aujourd'hui, il est rendu à 29 %. Augmentation de 6 %, toujours en progression. Donc, mai, 23 % septembre, 25 % du 15 au 21 septembre, 27 % puis octobre 29, donc 6 % d'augmentation.
La course au meilleur deuxième qui est officiellement ouverte.
Oui, puis on en avait jasé, on sentait, même les auditeurs nous en parlaient, c'est le fun, c'est assez, ça commence à être palpable. Ça se resserre entre le deuxième et le troisième candidat. Mai 2025, Sam Ahmad, qui est deuxième dans le sondage d'aujourd'hui, Sam Ahmad partait avec 22 % des intentions de vote. Il est maintenant rendu à 18 % des intentions de vote, donc il ne fait que baisser. Il a perdu 4 % Stéphane Lachance, qui est troisième, qui est en montée, et ça, je pense que ça surprend personne, du moins pour ceux qui s'intéressent à la politique municipale. Mai 2025, il est parti à 8 %. Il est rendu à 13 % maintenant, donc une augmentation de 5 %. Je te dirais que les deux gagnants dans ce sondage-là, là, c'est le maire Marchand qui a pris 6 % puis Stéphane Lachance qui partait avec un déficit de popularité là, qui a obtenu un 5 % de plus. Là.
Qui est le meilleur mathématicien de vous trois?
Jeff.
Jeff?
Ouais.
Jeff, additionne-moi les intentions de vote de Sam Ahmad et les intentions de vote de Stéphane Lachance, s'il te plaît.
Ben écoute, on est à 18 plus 13, donc 31%.
Les intentions de vote de Bruno Marchand sont à
29%.
Messieurs, qu'attendez-vous?
Exactement.
Qu'attendez-vous?
Légalement, ils ont-ils le droit de le faire?
Il est trop tard parce que leurs partis sont enregistrés.
Il est trop tard.
Ben, il est trop tard avec tout ce qui a été dit aussi. Oh, là, il y a trop une cassure.
Ça aurait été intéressant. Des co-chefs là, comme Québec solidaire, on a mis ça à mode dans les dernières années.
Mais s'ils font ça, Villeneuve va s'associer avec Marchand. Fait qu'on est rendu à 34 % de ce bord-là.
C'est pas faux. C'est pas faux. Puis Villeneuve, c'est le prochain à monter un petit peu. Là, personnellement.
Mais chose certaine, puis tu sais, on vient de faire un micro sur le tramway avec Valérie Gaudreau où on se positionne en disant ah, « Écoute, la CAQ avance dans le tramway, ça prend des projets. » Puis autant quand j'ai commencé en radio, il y a 2 ans, on aura reçu plein de textos de haine en disant « Allez vous promener avec votre tramway. » Autant là, les gens font « Ouais, t'sais. » Donc, ça veut dire que va falloir que Sam Ahmad et même Stéphane Lachance, s'il veut continuer à monter, s'attaque à d'autres choses que le projet de transport. Là.
Oui, moi, je pense que la stratégie que Stéphane Lachance a adoptée ici dans le face-à-face, ça rapporte. C'est un gars qui doit multiplier les entrevues, qui doit montrer qu'il est plus qu'une opposition au tramway et qui est capable de jaser. C'était comme les deux gros boulets qui traînaient. Tu sais, le fait d'avoir été tellement anti-tramway que tu avais l'impression que c'était juste ça. Puis l'autre chose, c'est qu'il passait pour quelqu'un qui était relativement agressif. Bon pour chialer, mais peux-tu être bon pour l'idée? C'est un peu ça le questionnement. Et la performance qu'il a offert ici dans le face-à-face, ben, je pense que ça a répondu de façon positive pour lui à ces deux questions-là.
Je pense que les gens ont répondu. Tu sais, je regardais le pourcentage d'indécis en mai 2025. On était à 28 % septembre, on tombe à 25 % des décis. Et là, tout d'un coup, du 15 au 21, début septembre, c'est 25 % des décis. 15 au 21, hop, il y a des gens qui ont décidé de dire « Attends un peu, là, finalement, je pensais voter pour un, pour l'autre. Finalement, ce ne sera pas lui. » Ça a augmenté le pourcentage d'indécis de 2 %. On était rendu à 27. Et là, octobre, avec ce sondage-ci, on est rendu à 21 %. Donc, les gens commencent de plus en plus à se faire leur idée. Anne Guérette, qui était dans nos studios hier pour une entrevue, je pense qu'elle n'est pas encore prête à faire des entrevues avec son programme. Elle a beaucoup de difficultés. J'essayais de chercher, tu sais, c'était quoi son programme. J'ai posé beaucoup de questions. Puis maintenant, on est tombé sur transport et itinérance versus toxicomanie versus alcoolisme versus police. Je mélange pas tout en même temps, mais il faut que je le dise. Elle est tombée mêlée. Puis quand elle a commencé à parler de chiffres, de tunnels, de ponts, c'est une architecte. Là. C'est une femme qui est supposée d'être dans ces dossiers-là, des dossiers pas mal plus complexes que nous autres, on est capable d'analyser. Là, elle apprend le pont de l'île d'Orléans. Elle l'amène à Québec et elle dit que ça va coûter à peu près 2 milliards alors que c'est pas les mêmes profondeurs. Là.
Ça a toujours été un petit peu le problème d'Anne Guérette avec respect. Des idées, mais des chiffres pas vérifiés. Vous lui avez même appris que certains chiffres existaient, je crois, hier. Oui. Pendant l'entrevue, elle n'en avait pas connaissance. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui génère des idées, mais ça prend peut-être des experts en comptabilité pour l'entourer sur cet aspect-là qu'elle semble moins maîtrisé.
Mais ça, c'est le nerf de la guerre. Quand tu es responsable d'une organisation, tu te greffes des gens qui vont t'amener des trucs dans lesquels toi, tu n'es pas à l'aise.
C'est ça.
Puis Anne Guérette, le ton n'est pas bon quand elle explique quelque chose. Elle a tout le temps de l'air fâchée, elle a tout le temps de l'air pressée. Hier, par deux fois, j'ai dit de relaxer, qu'on avait du temps en masse. Maintenant, elle a compris. Quand elle est tombée sur le dossier de l'itinérance, elle a commencé à baisser le ton un peu. T'sais.
Mais c'en est une qui gagnerait aussi, justement, simplement en changeant.
Mais tu peux pas pratiquer la profession d'architecte puis de dire après ça, ben oui, là, moi, j'ai pensé à un système de transport entre Québec et Lévis. On prend le pont de l'île d'Orléans, on prend le même coup puis on met ça là. Ça prend pas un ingénieur pour faire ça.
Ça en prendrait, Mme Guérin.
Ça en prendrait un, oui!
Oui! Est architecte, moi!
Oui, c'est moi, ça.
Moi, le clown, le premier, je demanderais un ingénieur. C'est possible de faire cette comparaison-là. J'ai pas la notion que les architectes peuvent avoir.
Pour revenir au sondage, tu sais, le taux d'indécis risque de monter puis de descendre parce qu'il y a des gens qui perdent des appuis. Tu sais, quelqu'un qui appuyait sa maman en début de campagne n'appuiera pas nécessairement instantanément Stéphane Lachance. Ça se peut qu'il se retrouve dans les indécis pendant quelques jours, pendant quelques semaines.
C'est un bon point.
Avant de se refaire une idée. Mais ça, ça ouvre la porte et ça donne de l'espoir à peu près tout le monde dans cette course-là. Évidemment, pour Claude Villeneuve, il commence à se faire tard. Je trouve ça malheureux. Je commence à le trouver bon, tabarnouche. Mais peut-être que Bruno Marchand s'y fait pas plus que ça dans cette campagne-là. Ben peut-être que lui va commencer à perdre des appuis au profit de Claude Villeneuve. Mais là, on voit que pour sa maman, rien ne va plus. Qu'est-ce que tu peux faire à ce stade-ci? Y a des jolies pancartes qui se sont ajoutées que j'aime bien avec les slogans. On l'appelle Sam, tout simplement. Mais c'est-tu trop peu, trop tard? Est-ce que tu te retires de la course à partir du moment où tu ne vas pas gagner? Parce que sa maman, c'est un discours qu'il a beaucoup tenu. Hein? Moi, j'y vais pour gagner. Ouais. Moi, j'y vais pour gagner. Est-ce que c'est le prochain pas de cette campagne électorale?
Mettons qu'Amad se sacrifie, ouais. Ça fait-tu en sorte que Lachance aurait des chances de remporter? Parce que Sam Ahmad, ce matin, est à 18%, Lachance est à 13%. Ahmad descend, Lachance continue de monter. Si lui décide de quitter Ahmad parce qu'il se dit « ça n'a pas de bon sens, mon affaire »,
ouais, mais il peut pas se sacrifier. T'sais, il y a 21 personnes. Ben là, 20, là, parce qu'il y en a qui ont démissionné. Là.
C'est ça qui arrive.
Est-ce que c'est une équipe, il y a plein de gens qui ont dit « on croit en vous, M. Ahmad, on y va ». T'as pas le choix d'aller jusqu'au bout. Là.
Quoi qu'il y en a un qui s'en va par semaine. Si on étire la campagne électorale un petit peu, ils vont tous partir.
Parce que ça, ouais, les sports, là, compte tenu de ça, il n'y aura plus de parti. Ils vont pouvoir partir.
Légalement, il peut le faire, mais les candidats vont continuer à faire leur campagne. Mais lui, il peut se retirer sans aucun problème.
Mais tu sais, je veux dire, quand tu as fait pendant des mois des rencontres avec des gens que tu a convaincu, suivez-moi.
Mais il n'y a pas besoin de ça, ça.
Ouais, sauf que tu peux pas partir. Je comprends ton point, mais moi, je me dis, t'es redevable envers ces gens-là. Là. Ouais. Hey, tu serais. Je vais prendre ce terme-là. Là. Tu serais loser en tabarouette de sacrer ton gant puis de laisser tout le monde dans la boîte.
Et malheureusement, le résultat actuel, puis on verra comment tout ça fluctue, puis tout est possible, mais présentement, on a un maire qui va se faire élire avec à peu près 30 % des suffrages. C'est probablement le maire qui aura été élu par le moins de monde qu'on aura vu depuis longtemps à Québec. Comment t'embarques dans un deuxième mandat avec aussi peu d'appui? Est-ce que t'embarques avec intransigeance puis tu dis « ah, moi je suis élu puis je vais tout appliquer mon programme » ou t'es comme obligé d'écouter? Est-ce que t'ouvres une porte à ça? Il y a des réflexions intéressantes à avoir, puis il va falloir voir aussi si Bruno Marchand ajuste sa campagne en fonction de ça aussi. Quand tu sais que tu vas être un maire où tu as 70 % des gens ou 65 % des gens qui vont pas voter pour toi, ça te laisse-tu toute la marge de manœuvre de faire ce que tu veux, comme tu veux? Je sais pas.
Ah bien, je regardais, tu sais, les gens à 50 % à peu près disaient qu'ils étaient satisfaits de son administration, mais un peu plus voulaient le voir partir.
Ben oui.
Donc, tu sais, t'es dans une entreprise, puis là, t'apprends, ton boss t'apprend que, regarde, on a passé un sondage parmi les employés, là, puis la moitié trouve que tu fais une job pas si pire, mais une bonne majorité aimerait que tu sacques ton camp.
On a beaucoup parlé de ton. On a parlé du ton d'Anne Guérette, on a parlé du ton de Stéphane Lachance qui s'est adouci puis qui débloque certaines oreilles. Est-ce que Bruno Marchand a le bon ton? Le ton semble irriter beaucoup de gens, le ton de Bruno Marchand, depuis qu'il est maire, depuis qu'il a commencé son premier mandat. C'est-tu quelque chose, ça, à travailler sur le pitch de vente d'un maire qui s'enligne pour être, réélu, mais de façon minoritaire.
Je pense que c'est le meilleur maire en communication qu'on a vu dans les dernières années là, au Québec. Là. C'est un gars qui fait passer constamment son message, qui choisit toujours les mots hyper précis pour expliquer ses trucs.
Il était très préparé pour le face-à-face, d'ailleurs. Oui. Là. Il n'a pas pu beaucoup le mettre en valeur, mais de façon générale...
Il est très jovialiste à l'heure actuelle dans la campagne électorale.
Il se prépare pour ses conférences de presse, puis il prépare les questions qui vont lui être posées. Puis des fois, quand les questions ne lui sont pas posées, il glisse dans son commentaire pour répondre à la question qui n'a jamais été posée.
Ouais.
C'est une méthode de communication qui est extrêmement efficace. Il y a des gens qui sont juste plus capables d'y voir la face, là. Mais il y en a d'autres qui disent « OK, ben tu sais, tant qu'à avoir peut-être pire que Bruno Marchand, il est aussi bête d'y aller avec Marchand. » Des gens qui me disent que les sondages légers, ça vaut pas de la crotte. Moi, je travaille avec ce qu'on me donne le matin, là. T'sais, on me parle d'un sondage léger où le Marchand est en avance. Ça veut pas dire que je suis pro-Marchand.
Les sondages sont pas toujours exacts, mais la méthodologie de léger est impeccable. C'est pas pour rien que c'est la maison qui est la plus utilisée à grandeur de la province. Je comprends les gens de pas vouloir, de pas apprécier certains certains résultats et certains chiffres. Faut pas virer parano, complot ou virer fou avec ça.
Mais c'est tout le temps la même affaire. Le sondage, il fait ton affaire. Tu dis ça, c'est le meilleur sondage qu'il y a jamais eu.
Tu parles-tu de radio, là, ou tu parles en général?
Il fait pas ton... il fait pas ton affaire.
Ça, c'est... Je m'estime demain avec mes patrons.
Il fait pas ton affaire. Ah, ça, ce sondage-là, c'est de la merde.
Ouais,
c'est comme les politiciens, non? On se fie au sondage, mais à un moment donné... Ouais, mais les gens nous ont demandé par rapport au sondage...
Okay. J'ai jamais vu une station de radio numéro 1 remettre en question la technique de sondage.
Non.
Et pourtant, la même station de radio, ça tombe numéro 2. La première affaire qu'elle va dire, « Hey, on s'entend-tu que la façon de faire les sondages, c'est de la grosse merde?
Ouais. » Le ton de Bruno Marchand va dépendre de combien de conseillers municipaux sont élus.
C'est vrai, t'as raison.
Parce que, souviens-toi, il y a eu un changement de ton drastique la minute où Jean-François Gosselin et Bianca Dussault sont joints à lui puis que ça lui a donné une majorité.
J'ai ma majorité, je suis correct.
Ah ouais, je fonce comme une tonne de briques. Fait que ça va vraiment dépendre de ça. À l'heure actuelle, moi, je sais, pour parler à des gens vraiment très près dans le milieu, que c'est difficile pour Québec Fort et Fier dans Beauport. Dans Charlebourg, c'est... T'sais, ça va être... S'il y avait seulement un conseiller, ça va être dur d'en rentrer un deuxième. Il y avait seulement une conseillère. Alors, ça va vraiment dépendre de ça.
Savez-vous quoi? Je vais m'adresser, entre autres, aux gens qui sont peut-être pas contents du résultat de sondage pour une raison ou pour une autre. On peut-tu se consoler en se disant qu'à Québec, présentement, au moins, il y a des enjeux? Au nombre de municipalités où il y a des gens qui ont été élus par acclamation, ou au nombre... Tu sais, à Montréal, il se passe rien. Tu sais, Montréal, c'est Montréal. Je veux dire, qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est la ville la plus importante du Québec. Ici, ça brasse. Il arrive des choses. Les sondages changent, puis ils n'ont pas fini de changer. C'est le fun. Je veux dire, c'est une campagne électorale, le fun. Et la performance des acteurs fait changer les intentions de vote. C'est super.
Il y a deux auditeurs de Montréal qui m'ont écrit, puis j'ai trouvé ça drôle en sacrament, parce que les deux messages se ressemblaient un peu. C'est-à-dire, hey, on a écouté les deux débats chez vous, parce que nous autres, à Montréal, il ne se passe rien.
Hey!
Puis là, on se dit, ben, on sait. Puis il y en a un qui dit, ben, moi, je voterais, tu sais, pour un tel, puis l'autre, il votait pour l'autre. Mais je trouvais ça drôle parce qu'il se passe tellement rien à Montréal.
Ils suivent la nôtre.
Ils écoutent les débats des autres villes.
On va se désennuyer, on va regarder ce qui se passe à Québec.
C'est la métropole, c'est triste.
Ah non, c'est un peu triste. Hey, il va y avoir un reportage ce soir à JE sur la base militaire de Valcartier. L'armée qui est dans l'eau chaude, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça partout au Canada, mais la base militaire de Valcartier qui est dans l'eau chaude, pas pire, parce qu'il y a des militaires qui ont vu justement les hommes qui étaient des militaires qui ont été arrêtés, qui se sont fait prendre avec des munitions et des armes qui venaient de la base militaire de Valcartier. Et la base militaire avait dit « Bon, nous, on ne sait pas d'où ça vient, il va y avoir enquête, patati patata. » Et ce que j'ai compris, de ce que Max m'a expliqué, c'est qu'il y a des militaires qui, par initiative personnelle, ont fait sortir du stock de la base militaire de Valcartier, ont contacté les journalistes de JE, et on fait un reportage avec eux. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a de l'inventaire militaire qui peut sortir de la base militaire de Valcartier sans aucun problème. La base militaire dit « Attendez un peu, c'est un peu compliqué. » Mais Denis, il y a des stratégies qui sont en place à la base militaire de Valcartier qui sont connues de certains militaires. On dit que c'est des QM, je ne sais pas, des quartiers-maîtres peut-être. Certains militaires des quartiers-maîtres, oui, c'est ça. Ils sont appelés les magiciens. On les appelle les magiciens. Et eux, ils ont une capacité à faire disparaître des inventaires officiels, des pièces d'équipement perdues ou encore volées. Ce qu'ils font, en fait, c'est que sur les papiers, il écrit « pièces détruites » dans le système. Puis après ça, on dit « OK, ce morceau-là, cette arme-là est tout simplement disparue. » Ensuite, il y a des codes d'accès de certaines voûtes d'armes qui circulent ouvertement à Valcartier. Il y a des gars qui donnent leur code d'accès de voûte à tout le monde. Certains pelotons se passent leur code de voûte. Il y aurait aussi des boîtes magiques. Quand je te dis qu'il y a des noms qui sont inventés, là, des boîtes magiques dans certaines unités où sont stockées des pièces d'armement, comme des viseurs ou encore des mires sèches qui ont été radiées des registres officiels et dans lesquels les militaires peuvent puiser, ni vus, ni connus. Si j'étais policier à Québec, je trouverais ça plate en maudit que des armes de type militaire puissent se ramasser dans les mains de gangs de rue.
Écoute, plein de choses là-dedans. Premièrement, ça me soulage un peu de voir que des soldats ont le cœur à la bonne place puis décident eux-mêmes de montrer à quel point c'est facile de sortir du matériel de la base de Valcartier, que JE, après toutes ces années, réussisse à nous présenter des reportages d'enquête comme ça. C'est exceptionnel. On est bien critique à l'endroit de TVA, mais JE, force est d'admettre qu'ils sont encore capables de faire des reportages importants. Puis ça, c'en est un. Écoute, on nous décrit très bien, moi je connais pas ça pantoute, là, mais on nous décrit très bien que c'est facile de sortir des pièces d'équipement ou d'armement dont la seule utilité, c'est pas d'aller à la chasse, là. T'sais, la seule utilité, c'est de tirer de l'humain en cas de conflit armé. Donc, quelqu'un qui sort de ces inventaires-là, c'est pour tirer des êtres humains. C'est pour vendre à des gens qui ont l'intention de tuer du monde. Tu fais bien de faire le lien rapidement avec les gangs de rue. C'est eux qui ont le plus d'intérêt à mettre la main là-dessus. Ou encore, des timbrés qui veulent prendre une zec en otage puis se partir un pays là, c'est une terre à bois, je veux dire. Il n'y a personne qui sort de l'équipement comme ça avec un motif noble ou un motif récréatif. C'est des gens qui veulent faire du mal. Et de voir à quel point c'est facile, puis qu'on a eu probablement... Tu sais, le laxisme, ça commence avec une petite affaire, puis un moment donné, ben, ça s'étire, puis ça devient généralisé. C'est-tu du laxisme généralisé à partir du moment où tout le monde a accès aux voûtes parce que tout le monde se donne les mots de passe, parce que personne semble saisir l'importance de la sécurité sur une base militaire, ça va amener beaucoup de questionnements.
Les boys, on se fait une pièce de théâtre, OK? On se fait une pièce de théâtre. Yes. Il y a une bijouterie qui est la cible de voleurs. Mm. Et les voleurs ont des armes militaires, des lunettes nocturnes. Et là, tout d'un coup, alarme silencieuse, les policiers partent de Le Bourgneuf, s'en vont directement, très, très rapidement vers cette bijouterie-là. Il fait noir, c'est le soir. Les policiers, ils ont quoi sur eux pour intervenir lors du premier appel?
Un petit fusil.
Ils ont un petit fusil. Les autres peuvent avoir des lunettes de visée nocturne. L'avantage est où?
Ben, l'avantage est au voleur.
Fait que quand pas t'es besoin policier, de ton... quand t'es policier puis tu lis ça, tu sais, un peu, là, moi, là, je suis patrouilleur, j'ai mon gun.
Je m'en vais me faire tirer comme un pigeon.
Ben, sais. C'est ça. Je suis patrouilleur. Fait que quand il va avoir un appel comme ça, ça, on va toujours appeler le SWAT.
Ben, ouais, tout de suite.
Non, mais c'est vrai. Puis encore là, le SWAT, ça va être une méchante paire de mains là, pour réussir à combattre ces gens-là qui vont être armés.
Les gars du SWAT, dans le noir, s'attendent pas à avoir des méchants qui ont des lunettes de visée nocturne.
On se croirait dans un film de Die Hard.
Ouais, ben c'est ça. Je comprends que Bruce Willis, rien qu'avec une camisole et un lighter, était capable de passer à travers une armée au complet, mais dans réalité, c'est pas ça, là. Et ces armes-là ne doivent pas être en circulation libre. J'espère que l'armée va prendre ses responsabilités. Puis moi, c'est quelque chose que je reproche souvent dans des dossiers où l'armée paraît mal. On n'est pas très transparent sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. On pense plus à se défendre face aux médias et aux accusations que d'autres choses. Si on voit qu'il y a un laxisme généralisé, j'espère que l'armée va être suffisamment transparente pour dire « OK, on a eu des problèmes, voici ce qu'on fait pour les régler puis pour rassurer la population aussi au total tout. »
Il y a une autre guerre qui s'en vient, Denis. Je ne sais pas si ça avait été prévu, mais là, il y a un accord de paix entre Israël puis le Hamas qui a été signé, qui aurait été accepté de la part des deux parties, et Trump serait derrière ça. Si l'accord de paix est respecté, puis il y a une libération des otages, puis ça signifie que les gens à Gaza, ce sera terminé, ils vont arrêter de se faire gazer puis de se faire tirer des missiles dessus, moi, ça me va jusqu'à maintenant, puis je pense pas que les gens soient bien fâchés de ça.
Mm.
Mais c'est le Nobel de la paix. Trump veut runner pour le Nobel de la paix, puis il y a des chances de gagner avec cet accord-là. Les gens qui décident du Nobel de la paix vont se rencontrer encore demain. Mais si jamais on donne le Nobel de la paix à Donald Trump, il y a une autre guerre qui s'entame.
Ouais, faites pas de bye-bye cette année parce que la vie est rendue une joke, là, au total tout. Là, la réalité est rendue plus drôle que n'importe quel sketch.
Il aurait arrêté la guerre entre le Hamas et Israël, mais à l'intérieur même de son pays, c'est le chaos là, à certains endroits, avec la garde nationale, entre autres.
Ouais, puis on pourrait aussi argumenter que la guerre qui était supposée d'arrêter en 24 heures entre la Russie et l'Ukraine fait toujours rage.
Ah oui, il y a encore une guerre, là?
On me dit que oui, moins hot des nouvelles, là, mais on me dit que ça
brasse. Était censé s'arrêter en 24 heures, puis là, aux Nations Unies, Trump était censé réarmer l'Ukraine, puis on reprend un territoire.
Ouais, c'est pas arrivé.
Il n'y avait de ça encore.
Puis dans le cas du cessez-le-feu, je veux pas être trop cynique, mais il me semble que c'est une nouvelle que j'ai vue passer souvent.
Pas le premier.
En 25-26 années de couverture médiatique, je me souviens des vieux sommets avec Yasser Arafat du côté des États-Unis. On peut négocier bien des choses, mais mais sur le terrain, souvent, malheureusement, tragiquement, ça change pas, puis ça repart en l'espace de quelques semaines.
Puis on en parlait avec Jeff puis Max ce matin, quand on l'a donné à Obama, il y a des gens qui adulaient Obama, avec raison. Il y a des gens pour qui Obama, il y en avait rien à foutre, même si c'était leur président. Puis il y en a d'autres, peut-être avec un fond de xénophobie puis de racisme, qui détestaient Obama, mais c'était un 2-3%. Mais on lui a donné le Nobel pour un discours qu'il avait fait, on trouvait ça franchement intéressant. Mais dans le cas de Trump, c'est soit que t'es de son bord, ou soit que t'es de l'autre, mais il n'y a jamais personne dans le centre en disant « Moi, ce gars-là me laisse indifférent. »
Ben, suis-tu du bord de Trump? Non. Mais s'il réussit à avoir un cessez-le-feu qui tient, donnez-y le Nobel de la paix. C'est rien que ça nous coûte de le voir danser avec sa statue. Écoute, vive la paix, là. Moi, je suis un grand pacifiste. Là, si on arrête deux nations de s'entretuer, puis le prix collectif qu'il faut subir, c'est la danse de Donald Trump avec le Nobel de la paix, je peux vivre avec ça. Ouais. Je peux vivre dans cet avenir-là.
Je serais curieux de savoir comment ça va se passer dans les rues.
Ouais,
imagine la conférence de presse.
Tu vois-tu Donald Trump rentrer sur Imagine de John Lennon? Si le monde va capoté, là. Faut voir l'humour là-dedans, là, j'imagine, rendu là.
Incroyable.
Give peace a chance.
Ouais, OK. La bonne nouvelle, c'est que c'est un beau temps pour vivre en 2025, il se passe tout le temps de quoi.
Ben oui, ben oui. Hey, vous me parlez pas du Canadien, boys.
Comment ça? T'as un gilet des Bruins de Boston, qu'est-ce que t'as à dire de mon Canadien de Montréal?
Swayman est de retour.
Swayman is back. Une grosse victoire des Bruins. Opportuniste à la Bruins de Boston hier. 3-1 face aux Capitals. Bel effort du Canadien.
Très bel effort.
T'as vu des belles choses.
T'as-tu vu le match?
Oui, je l'ai écouté.
Juré?
Ah oui.
Okay.
J'ai écouté les deux premières périodes, en fait.
T'as trouvé mon nouveau joueur préféré, Zachary Bolduc?
Ah, il est solide.
Vraiment.
Oui. Écoute, il est solide. Kapanen est solide. J'ai vu beaucoup de belles choses. Demidov fait triper mes enfants. Montembeau a été...
Ben smart.
Ah, t'es...
Il est déplaisant. Motambeau, dès le début du match, 2-3 gros arrêts pour garder le Canadien dans
regarde
le match.
Regarde comment c'est un fan du Canadien. Là. Le Canadien a perdu, il met son gilet
des Blue Jays.
Des Blue Jays.
Ouais,
oui, il a jamais vu le match des Blue Jays hier.
Non, il arrête pas de dire que le baseball est plate, mais il a sa chemise des Jays.
C'est vrai que c'est plate.
Montembeau a glissé un petit peu trop sur le premier but, mais pour le reste, il n'a pas été méchant. Le gardien des Maple Leafs les a gardés dans le match, par exemple.
La stature, il est à quoi? 6-5, 6-6?
Il est gros.
Il est vraiment grand.
6-6.
Il est immense.
248 livres.
Ouais, 248 livres d'amour. Puis je pense que ça va solidifier les Maple Leafs de Toronto, qui sont pas super appréciés là, dans les dernières années en raison du fait que t'sais, ils ont une équipe incroyable, mais ils réussissent jamais à aller jusqu'au bout.
Félicitations aux Maple Leafs qui nous ont servi hier la cérémonie d'ouverture de saison la plus plate que j'ai jamais vue de ma vie. C'était quoi cette affaire-là?
Écoute, dans le stade, là, c'était très relax. Ils n'ont pas eu de misère à faire respecter la minute de silence qu'ils avaient demandé. Là,
non, c'était déjà pas mal silencieux. Déjà, ouais.
Puis à un moment donné, surtout en deuxième ou en troisième, on entendait « Let's go, Blue Jays! »
C'est le moment qui a eu le plus d'ambiance dans toute la game.
Mais j'en suis pas revenu. Moi, je suis arrivé du gym, puis j'allais chercher Edou à sa pratique de foot. 7h08, 7h09, puis j'ai dit hein, « Le match commence
déjà. »
La cérémonie était où?
Ben oui.
Fait que si vous me dites qu'elle était plate, je lui ai manqué, moi. Elle était courte aussi, en tout cas.
Il y avait hâte de sauter sa glace, faut croire.
Mais on a vu que Patrick Laine, Gab Marino nous dit qu'il a un peu amélioré son patin, le meilleur, on va se le dire, ça paraissait pas. Puis Slavkovski l'échappait souvent, la maudite rondelle, hier.
Mais arrête, ça a l'air qu'il est super bon. Tout le monde sur Twitter dit que Slavkovski, très bon match. Fait qu'on va rentrer dans le rang, Marceau.
Non. Je ne l'ai pas trouvé super non plus.
Non, il n'a pas été très bon.
Ouais. Mais il faut tout le temps que tu fasses la différence entre les gens qui ont accès au vestiaire du Canadien et les gens qui n'ont pas accès. Parce que maintenant, pis ça a changé. Pis si j'entendais Réjean Tremblay parler de ça il y a de ça peut-être 2-3 ans. Dans le temps, là, il y avait accès au vestiaire du Canadien. Il voyageait avec les joueurs. Puis, il avait le droit de bitcher les joueurs sans aucun problème. Maintenant, le Canadien a reviré ça de bord. C'est un privilège pour toi en tant que journaliste d'avoir accès au vestiaire, puis d'avoir accès aux passerelles en haut, puis de faire des entrevues one-on-one avec un joueur du Canadien. S'il n'aime pas ce que tu dis sur le Canadien, ça se peut que tu aies un peu plus de misère à booker ton joueur.
Mais je parlais surtout des partisans. En général, Slavkovski, ça a l'air qu'il est malade.
Mais Anthony Martineau, il est très partisan, même si c'est un journaliste.
Ah, ils ont donné un micro à un fan.
Et toi, Max?
Ben moi aussi, j'étais un fan avec un micro.
Mais le jour où il y aura une critique sévère à l'endroit d'un Slavkovski, je suis pas sûr que ça soit aussi facile que ça de faire des entrevues. Ouais.
Mais le sport étant ce qu'il est, hier, c'est une double bad luck. Là, je veux dire, le Canadien maîtrisait bien son adversaire. Ah oui. Mais là, le gars fend son bâton, l'autre échappe son bâton. C'est des...
Première
c'est
fois que je voyais ça.
Oui,
deux défenseurs, pas de bâton.
Tenez votre bâton raide, qu'ils disent dans le Atome pis le Pee-Wee. Oui, tenez votre bâton raide.
Mais là, c'est pas moi qui va donner des conseils aux 48 chez le Canadien.
Non, je pense qu'il est capable de s'arranger.
Oui. C'est hot de voir. Parce que moi, j'étais persuadé que Lane Hudson allait avoir une très courte carrière dans la Ligue nationale en raison de son poids. Il est à 170 livres, puis il fait face à des attaquants, des fois, qui sont à 210, 220, 230. De voir qu'il est capable de tirer son épingle du jeu, là, c'est de dire à quel point ce gars-là, il est unique au monde.
Deux statistiques intéressantes avant de vous laisser, messieurs. Moi, je suis un gars de statistiques. Qui a perdu tous ses matchs de saison régulière jusqu'à maintenant? Le Canadien de Montréal. Qui a gagné tous ses matchs de saison régulière jusqu'à maintenant?
Les Bruins de Boston.
Yeah, baby! Yeah.
Et voilà!
On t'écoute peut-être à 14h.
Salut!
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 Marceau le matin.